Voilà. Merci Seigneur. Alors ce matin, on va partager quelques versets ensemble. On va commencer par Éphésiens, le chapitre 1. Verset 1 au verset 8. Alors, il est écrit, « Moi, Paul, je suis apôtre du Christ, Jésus, parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous donne la paix. Louange à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Et depuis toujours, merci, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Amen. Voilà, on peut remettre les versets, s'il te plaît. Le verset 1. Alors, il est écrit ici, « Moi, Paul ». Donc ce matin, moi, je vais vous dire, moi, Wilfried, je suis pasteur du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à l'église du Phare et qui croient au Christ Jésus. Continuons. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous donne la paix. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur m'a réveillé avec cette pensée que, en fait, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Tu peux laisser les versets, s'il te plaît. Je vais beaucoup les utiliser, donc on pourra les garder. Nous sommes un peuple béni et dans notre quotidien, nous ne rendons pas compte de la bénédiction que Dieu a déposée sur nous. Alors, dans notre quotidien, lorsque nous vivons comme des personnes, on employait ce terme, des personnes lambda, c'est-à-dire qui vivent simplement leur quotidien, qui prient effectivement quand c'est possible, qui chantent les louanges de Dieu quand c'est possible, mais dans les difficultés du quotidien, on a l'impression parfois, et ça a été dit un peu dans l'introduction de ce culte, on a l'impression parfois de ne pas avancer. On a l'impression parfois qu'on est seul. On a l'impression parfois qu'on n'est pas l'enfant de quelqu'un. Alléluia. Alors ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il commence à écrire à l'église d'Éphèse, il veut déjà leur mettre dans une position de paix avant qu'ils ne disent ce qu'il a à leur dire. Il veut déjà les bénir avant qu'il ne commence à dire ce qu'il a prévu. Et l'objectif pour lui, c'est que le peuple de Dieu qui va recevoir la parole de Dieu soit déjà dans une disposition de cœur pour la recevoir. L'objectif pour lui, c'est que le peuple de Dieu qui va recevoir la parole de Dieu sache aussi que lui qui parle, l'apôtre Paul, il ne parle pas simplement parce qu'il veut les conseiller, mais il commence à leur dire « Je suis l'apôtre Paul parce que Dieu l'a voulu. » J'ai été choisi par Dieu. Et donc, ce que je vais vous dire, l'apôtre Paul le dit, et il le fait comprendre, vient de Dieu. Ce que je vais vous communiquer vient de Dieu. Simplement, j'ai envie d'abord que vos cœurs soit dans la paix. Et j'ai d'abord envie que vous receviez cette grâce de Dieu que nous avons en Jésus. Alors, j'aimerais ce matin que tu dises à ton frère et à ta sœur, à ta gauche et à ta droite, que la paix du Seigneur soit sur toi. Dis-le-lui, s'il te plaît. Que la paix du Seigneur soit sur toi ce matin. Dis-lui que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. La paix et la grâce, c'est important avant de rentrer dans toute autre parole. Si nous n'avons pas la paix dans nos moments d'épreuve, si nous n'avons pas la paix dans notre quotidien, si nous n'avons pas la paix lorsque nous devons prendre des décisions, nous ne pouvons pas user de toute la connaissance de Dieu, de toute la sagesse de Dieu pour prendre les décisions. On a besoin d'être en paix, même le monde l'enseigne. On ne peut pas décider sans être en paix, sinon on n'a pas de discernement. Il faut d'abord qu'on pose le cœur, comme parfois on dit, expression souvent utilisée, pose ton cœur. Et certains disent même, lorsque tu as une décision à prendre, va d'abord dormir. Et demain, tu te réveilleras et tu seras peut-être dans les meilleures dispositions pour prendre une décision. On a besoin de la paix. Aujourd'hui, j'insiste sur la paix dans nos difficultés. J'insiste sur la paix dans notre vie quotidienne. J'insiste sur le fait que nous devons d'abord être en paix, même dans la décision, même dans les difficultés que nous traversons. La paix est un prérequis avant de décider de quoi que ce soit. Alors l'apôtre Paul ici, il veut que l'église de Éphèse à qui il écrit soit d'abord dans la paix. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Philippiens 4, 4 à 7. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde, le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Alors ici, on nous fait comprendre que lorsque nous avons besoin de quoi que ce soit, nous devons prier, nous devons demander au Seigneur, et nous le faisons. Alors, mais la suite est importante parce qu'il dit après que lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, il ne dit pas dans ce verset que nous allons le recevoir tout de suite. Il ne dit pas dans ce verset que Dieu va nous exaucer tout de suite. Non, la première chose qu'il dit que Dieu va donner, c'est la paix. La paix de Dieu. Avant d'aller dans autre chose, dans d'autres pensées, dans d'autres... Que la paix de Dieu vienne d'abord dans nos cœurs. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas comprendre. On a besoin d'être d'abord tranquille, d'être posé. Avant de décider. Gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsqu'on doit prendre des décisions, lorsque les événements commencent à nous dépasser, nos pensées se désunissent au Christ. Et on commence à oublier ce qu'on nous a enseigné, ce que la Bible dit, ce que Jésus a dit. On commence à oublier les promesses de Dieu. Or, ce sont ces promesses-là qui font qu'on continue à marcher, à cheminer avec le Seigneur. Ce sont ces promesses-là qui font qu'on garde la foi et qu'on persévère parce qu'on croit avoir entendu un jour dans notre vie chrétienne une promesse de Dieu, une parole de Dieu, un encouragement de l'Esprit. Alors, lorsque nous sommes dans cette situation, la paix de Dieu va nous rappeler la bonté de Dieu dans nos vies. La paix de Dieu va nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. La paix de Dieu va nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. La paix de Dieu va nous rappeler que Dieu est avec nous et qu'il est au contrôle de notre situation. Mais lorsque nous manquons de paix, nous commençons à penser que nous ne sommes pas seuls, ou plutôt que nous sommes seuls. Nous commençons à penser que Dieu nous a délaissés, abandonnés, que le Seigneur n'a pas écouté la prière. Nous pouvons commencer à penser que le Seigneur nous a oubliés. Et alors, notre foi commence à vaciller. Et on se dit, où es-tu, Seigneur? Alors, parfois, il nous arrive, et moi le même, de pleurer dans la prière, de crier, de se dire, où est mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance? Mais ici, il dit, lorsqu'on est dans cet état, et lorsque nous prions, lorsque nous pleurons, lorsque nous crions, lorsque nous nous lamentons, lorsqu'on se demande, où est-il? Il nous a dit que la paix vienne d'abord dans vos cœurs, avant toute chose. La paix. Dieu est là. Sois en paix. Cette grâce que donne la paix nous permet d'attacher nos pensées au Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. C'est la paix de Dieu qui garde nos pensées unies au Seigneur lorsque nous passons des circonstances difficiles. Jean chapitre 14, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » L'inquiétude enlève la paix. L'inquiétude ôte la paix. L'inquiétude apporte le trouble dans nos pensées. Et Jésus dit ici à ses disciples, ne soyez pas inquiets. Quelles que soient les circonstances que nous vivons, moi qui vous parle, je vis aussi mes propres difficultés. Le Seigneur me dit, Wilfried, ne sois pas inquiet. Je suis au contrôle. Je sais ce que tu vis. Je sais de quoi tu as besoin. Sois en paix. Je suis avec toi. Crois en Dieu et crois aussi en moi. Si ce matin tu fais partie de ceux qui ont donné, comme on dit souvent, leur vie au Seigneur, et moi je dirais, si tu fais partie de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, le Seigneur ne te décevra pas. Il faut simplement que dans ton esprit, tu te souviennes que tu n'es pas seul, qu'il est ton Père. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 1 qu'on a lu, l'apôtre Paul disait, « Rends grâce à Dieu, votre Père est mon Père. » Il veut rassurer les Éphésiens que c'est mon Père, c'est lui qui m'a mis apôtre. Mais ce n'est pas que le mien, c'est aussi votre Père. Mon Père est votre Père. Alors, Christ dit, croyez en Dieu, croyez au Père et croyez en moi. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas troublés. Que votre paix ne soit pas troublée. Que votre foi ne soit pas troublée. Que votre confiance en Dieu ne soit pas troublée à cause des épreuves que vous passez. Dans la version de Louis II, je ne sais pas si tu peux nous mettre la version Louis II par rapport à Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Il vient peut-être leur donner une information à ceux qui sont troublés. Il leur dit, béni soit Dieu. Vous voyez, vous êtes dans un problème et quelqu'un vient vous dire, béni soit Dieu. Est-ce que j'ai envie de bénir le Seigneur dans ma situation? Oui, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses encore que tu es béni? Ou tu te dis, ah, moi, mon cas là, vraiment, je ne suis pas sûr encore d'être béni. Certains même chrétiens parlent de malédiction, malédiction de famille, malédiction des liens, malédiction de ceci, malédiction de cela. Tu es béni. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse, je lisais une phrase et ça l'agaçait. Je ne sais pas si elle se rappelle, mais ça l'agaçait beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je lui disais, je suis béni. Il me disait, mais tu n'es pas le seul. Pourquoi à chaque fois tu répètes, tu es béni? Moi aussi, je suis béni. Je dis oui, mais chacun prend sa bénédiction. Chacun proclame sa bénédiction. Moi, je la proclame. Et je la proclamais tout le temps et ça la fatiguait. Je suis béni. Oui, je suis béni. Je dois avoir la conscience que je suis béni. Même si je passe la vallée de l'ombre de la mort, j'ai la conscience que je suis béni. Même si je traverse des difficultés, même si je tombe, je sais que mon Dieu est là. Il m'a déjà béni. Alors je surmonterai l'épreuve. Alors je réussirai. Alors j'aurai la victoire parce que je suis béni. Amen. Mais si l'épreuve me fait oublier que je suis béni, je veux croire que je suis maudit. Je veux croire que la malédiction tombe sur moi. Et quand on pêche, on se dit, oh Seigneur, j'ai péché, alors je suis maudit. Non, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Oh, celui qui péchait était maudit. Non, nous sommes dans le Nouveau Testament, sous la grâce de Dieu. Nous sommes dans l'époque de la grâce, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie de toute iniquité. Alors, si je pêche et je tombe, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je te prie. Je me lève et je marche dans la bénédiction. Qui accusera les élus de Dieu? Ce matin, qui t'accuse? Ce matin, qui te refroidit? Ce matin, qui t'empêche de dire encore, je suis béni? Moi, je dis toujours, je suis béni. En ce moment, je suis au chômage, mais je suis béni. On ne dit pas amen? Je suis béni. Vous ne vous rendez pas compte. Les gens ne comprennent pas mon sourire. Il y a quelques années, peut-être 15 ans en arrière, j'avais une sœur dans l'église. Un jour, elle vient me voir et me dit, Wilfried, dis-moi un peu, tu es toujours en train de sourire, tu es toujours de bonne humeur, tu n'as pas de problème. J'ai dit, mais ma sœur, j'ai les mêmes problèmes comme toi, mais je sais que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Même si je passe la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Même si ma situation n'est pas claire, je sais que pour lui, elle est claire. Il sait où il m'emmène. J'ai une sœur ici à l'église qui m'a déjà aussi fait la même remarque. Elle m'a déjà dit, ah, toi, tu es toujours souriant. J'ai dit, oui, parce que j'apprécie la grâce de Dieu tous les jours. J'apprécie les bontés de l'Éternel tous les jours. Même si je ne les vois pas de mes yeux, je sais qu'elles sont là. Je sais que mon Dieu veille sur moi. Je sais que sa miséricorde dure à toujours. Et que ses bontés, chaque matin quand je me réveille, elles se sont déjà renouvelées. Même si je marche, que je ne les vois pas, mais mon esprit les voit. Alors je marche dans la foi. Et je ne me laisse abattre par rien. Je ne m'attriste de rien. Parce que je sais que mon Dieu m'a béni. Et qu'à cause de cette bénédiction, j'aurai la victoire. Alors ce matin, que penses-tu de ta propre vie? Penses-tu être béni? Qui pense être béni ici? Ah, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. va lire Deutéronome, chapitre 28, verset 2 au verset 13. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur, votre Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. On s'arrête d'abord là. N'enlève pas, s'il te plaît. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Est-ce qu'on a la conscience de cette parole? Est-ce qu'on se l'approprie même quand tout va mal? Seigneur, tu as dit, tu me béniras dans toutes les circonstances de ma vie. Alors, cette situation que je traverse, je sais qu'au bout, j'aurai une bénédiction. Alors, l'épreuve dans laquelle je suis, je sais qu'au bout, j'aurai la victoire. Parce que tu as dit que dans toutes les circonstances de ma vie, je serai béni. Vous savez, hier, on a fait ici un mariage, comme ça a été dit. Et lorsqu'on fait le mariage ici, on dit aux mariés parfois, veux-tu prendre tel pour époux ou pour épouse? Et souvent on dit, pour le meilleur et pour le? Pour le meilleur et pour le? Oui, dans toutes les circonstances, tu acceptes de te marier. Dans toutes les circonstances, tu acceptes d'aimer l'autre. Dans toutes les circonstances, tu acceptes d'être avec lui. Dans toutes les circonstances, tu acceptes de le soutenir pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans l'épreuve. Cette parole est pour nous, chrétiens. La foi pour le meilleur et pour le pire. La confiance en Dieu pour le meilleur et pour le pire. Sachant que le pire pour toi n'est pas le pire de Dieu. Parce qu'il sait comment tu sortiras de cette épreuve. Mais il veut voir ta foi. Vous savez, le pire pour Abraham a été d'amener son fils, Isaac. C'était le pire pour lui. Ce fils pour lequel il a prié, je dirais même jeûné, il a pleuré, il a désiré de toutes ses forces. Et lorsque Dieu lui a fait grâce de l'avoir, il s'est dit, béni soit Dieu. Le Père de toute bénédiction. Mais lorsque Dieu lui a dit, bien-aimé Abraham, donne-moi ton fils. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il pensé? Disait-il encore, béni soit Dieu? Peut-être bien que oui. C'était l'épreuve de sa vie. Il a dû emmener son fils Isaac à l'autel. Il a dû lever un couteau pour le trancher la gorge et le donner en offrande à Dieu. Il allait jusqu'au bout de sa foi, pour le meilleur et pour le pire. Mais la bonté de Dieu, ses compassions et ses miséricordes, chaque matin, elles se renouvellent. Et elles se sont aussi renouvelées pour Abraham ce jour-là. Et Dieu lui a dit, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu me fais confiance. Parce que tu as eu la confiance, et ce qui est dit dans Hébreu, qu'Abraham a cru jusqu'à croire que Dieu, qui lui a donné ce fils, qui le fait mourir, est aussi capable de ressusciter les morts. Et donc de ramener son fils Isaac à la vie. La foi, folie pour certains, puissance pour d'autres. Dans quel camp es-tu? De la foi folie ou de la foi puissance? Es-tu prêt, comme Abraham, à te dire, mon Isaac, je peux le donner à Dieu. Mon travail, je peux le donner à Dieu. Je n'ai pas d'enfant, je peux le donner à Dieu. Je n'arrive pas à avancer dans tel domaine, je peux le donner à Dieu. S'il le veut, il le ressuscitera, parce qu'il en est capable. Et s'il ne le veut pas aussi, que la gloire lui soit rendue. Parce que Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce qu'on peut encore avoir cette foi, cette confiance en Dieu, pour se dire que c'est encore possible quand tout va mal, seulement si Dieu le veut. Sachant qu'il veut toujours le meilleur et non le pire pour notre vie. Est-ce qu'on le croit encore? Continuons, merci. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. Est-ce qu'on le croit encore? Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par sept chemins différents. Le Seigneur votre Dieu protégera vos greniers. Il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on entreprend parfois des choses et ça ne réussit pas. Et on dit, mais Seigneur, tu as dit que je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Connais-tu le plan de Dieu pour ta vie? Connais-tu la volonté de Dieu? Connais-tu la pensée de Dieu? L'apôtre Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu recherches la pensée de Christ? Ce que Dieu veut, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Cherchons à avancer avec la connaissance de Dieu. C'est pour cela que moi, quand j'enseigne souvent, et c'est quelque chose que j'ai voulu dès ma naissance spirituelle, Seigneur, je désire avoir du discernement, de la sagesse. Et Salomon m'a beaucoup inspiré personnellement. Salomon qui n'a demandé ni or ni argent, qui a demandé une seule chose à Dieu, la sagesse. Pour prendre des décisions selon Dieu, pour connaître quelle est la volonté de Dieu, pour connaître quel chemin suivre. La sagesse qui vient d'en haut et non celle des hommes. C'est par elle, il est écrit, que Dieu a bâti le ciel et la terre. Par la sagesse, il a fait toutes choses. Si tu dois demander une chose à Dieu, je t'encourage à lui demander la sagesse. La sagesse. Vous savez, Dieu m'a donné beaucoup de choses dans ma vie. Il y a des choses que j'ai laissées tomber parce que je me suis rendu compte qu'il me les a données parce que je le lui ai demandé. Mais ce n'était pas forcément ce à quoi il me prédestinait. Comme beaucoup savent, je suis parti travailler à Lyon, un salaire bien payé. Je demandais au Seigneur des choses bien précises. Je veux ça, un salaire comme ça, un travail comme ça. « Ah, mon fils, tu me fatigues, tiens, prends. » Mais quand je les ai eus, je me suis dit, « Seigneur, vraiment, est-ce que c'est ce que je veux ?» J'ai démissionné, j'ai laissé tomber. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine, je priais. Et souvent, quand on accompagne les mariés, et c'est parce que j'accompagne un couple pour le mariage que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça. Et souvent, quand j'accompagne les mariés, on dit, vous savez, maintenant, il faut prendre un peu en compte les projets des uns et des autres. Il faut laisser tomber vos propres projets à vous. Là, vous êtes unis ensemble, il faut un peu marcher ensemble. Le Seigneur m'a dit, tu conseilles les autres, mais toi, tu as des projets, tu as des choses carrées que tu me demandes. Sais-tu ce que j'en pense? Tu veux un salaire comme ça, tu veux un travail comme ça, tu veux aller là-bas, tu ne veux pas faire ceci, cela. Seigneur, donne-moi ça, comme ça. Non, non, pas un peu rectangulaire. Non, moi, je veux carré. C'est ça pour moi, c'est carré. Dieu te dit, bon, moi, j'ai peut-être prévu rectangulaire. Tu dis, non, non, Seigneur, moi, c'est carré que je veux. Et aujourd'hui, il y a une semaine, j'ai prié en disant, Seigneur, dans le travail, parce que je refusais des offres. Ce n'est pas que je n'ai pas de boulot, parce que je n'en trouve pas. Non, j'en ai trouvé. On m'a proposé des choses, j'ai refusé. J'ai dit, ça ne rentre pas dans mes critères. Et puis Dieu m'a parlé à ce moment-là. Il m'a dit, tu refuses ça. Ok, tu as tes critères, mais tu connais les miens. Est-ce que tu connais les miens? Je me suis arrêté et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai mis beaucoup de critères, mais je les enlève. Donne-moi le boulot que tu veux. Je suis payé au SMIC, je serai payé au SMIC. Du moment que c'est là que tu veux que je sois. Si je dois peut-être me déplacer, parce que je n'ai plus envie de me déplacer, j'ai envie de rester sur l'île à côté. Ça, ce sont mes critères, vous voyez. Qui semblent être bons hein, devant Dieu. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as des diplômes, tu te dis, bon, j'ai une expérience, c'est normal, je ne peux pas être payé au SMIC. Mais connais-tu la volonté de Dieu? Ça a l'air simple à vivre, mais compliqué en même temps. Connais-tu la volonté de Dieu? Non. Alors j'ai appris aujourd'hui, pour ce domaine-là, et je l'étends dans l'autre domaine de ma vie, à ne plus trop mettre des critères. À dire, Seigneur, et souvent, quand aussi on accompagne des jeunes filles, vous voyez, pour le mariage, elles mettent souvent des critères avant de chercher un homme. Moi, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça, grand, beau. Comme disait encore Chanel la dernière fois, quand on a fait le peuple jeunesse, que quand elle priait pour un homme, elle ne priait pas forcément pour quelqu'un qui allait ressembler au pasteur Alexis que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez? Mais Dieu, elle a fait le témoignage samedi au moment du peuple jeunesse. Elle avait ses critères quand elle arrive à l'église. Seigneur, je veux me marier, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça. Ok. Mais quand Alexis est rentré ici, elle a fait le témoignage. Quand elle a vu Alexis, il lui a dit, c'est lui. Elle a dit, non, ça ne peut pas être lui. Il ne rentre pas dans mes critères. Ce n'est pas lui. Mais elle s'est laissée transformer, changer dans sa perception, dans sa manière de penser, dans ses propres critères. Elle a reconnu que c'était la volonté de Dieu. Et elle a dit, oui, Seigneur, j'accepte ta volonté. Et elle est heureuse dans son couple, épanouie. Elle n'est pas là ce matin, elle est en mission. Mais son chéri est là avec 4 enfants, il gère. Est-ce qu'on peut l'encourager? Alors, Romains 8, on va finir par celui-là. 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait que l'Esprit veut, il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut, pour ceux qui lui appartiennent. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Je relis. Nous savons, c'est pas que nous pensons, c'est pas que nous croyons, c'est pas que est-ce que non, nous savons, c'est clair, c'est sûr. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. C'est pourquoi je dis, je suis béni. Dieu fait tout pour mon bien. Alors je suis béni. Parce que je sais que ce que Dieu fera pour moi sera pour mon bien. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Alléluia. J'aimerais que ce matin, Nous gardons cette pensée. Et le titre, je ne l'ai pas donné exprès pour avancer dans ce que j'avais à dire, le titre de ma prédication ce matin, c'était « Tu es béni ». Tu es béni. Parce que Dieu fait tout pour toi. Et il faut que nous soyons conscients de ça. Lorsque nous passons des difficultés, lorsque nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous désirons, dans tous les cas, nous sommes bénis. Nous sommes allés à gauche. Le Seigneur, peut-être qu'il nous veut à droite. Alors, recherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et moi, j'apprends. Parce que, comme aime dire le pasteur Antoine, chaque jour, nous apprenons. Quel que soit notre âge, notre temps passé dans la foi, nous apprenons tous les jours à marcher avec ce Dieu grand et invisible. Il est tellement grand que nous ne pouvons pas le saisir. Mais si nous lui faisons confiance, il se révélera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever un instant, s'il vous plaît? Tu vas simplement penser à des situations difficiles de ta vie. Et avant cela, est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis béni? Dis à ton voisin, je suis béni. Demande-lui, est-ce que tu es béni? Alors, est-ce qu'il t'a répondu ou bien il t'a pas répondu? Il n'est pas sûr. Je vois que vous partez avec cette pensée, je suis béni. Je passe des complications et difficultés, mais je sais que mon Dieu est là, il me bénit. Il m'ouvre des portes fermées. Comme il le dit dans Apocalypse chapitre 3, j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il a ouvert une porte devant toi. Ici, pour ceux qui étaient là lorsque Vincent Starman avait prêché, vous voyez, il avait prêché sur les portes. Il disait que si la porte de Dieu n'est pas là et qu'elle est là, et que toi tu forces à passer ici, non, la porte n'est pas là, la porte elle est là. Mais toi tu veux sortir au jardin en passant par là. Non, la porte elle est là. Mais Dieu nous ouvre une porte. Trouvons cette porte. Alors, pense à ta situation tout simplement. Ferme tes yeux. Commence à penser à ta situation dans ta vie. Commence à penser à ta situation où peut-être tu crois ne pas être béni. Où tu crois peut-être que le Seigneur t'a laissé, délaissé, comme une femme abandonnée. La Bible parle de la femme délaissée. Et en disant, est-ce que j'ai donné une lettre de divorce? Le Seigneur dit non. Je n'ai point donné une lettre de divorce. Mon épouse, ma fiancée et ma fiancée, l'Église est la fiancée du Christ. Il ne nous a pas donné une lettre de divorce. Il ne nous a pas délaissés. Nous sommes sa fiancée. Un fiancé peut-il délaisser sa fiancée? Un fiancé peut-il abandonner sa fiancée? Bien sûr que non. Alors pense à une situation maintenant et parle à ton Dieu. Dis-lui quelques mots, tout simplement, dis-lui quelques mots ce matin. Après ce que tu as entendu, dis-lui simplement quelques mots.